Bonjour, eh bien nous nous retrouvons pour l'émission Terre solidaire avec Chantal pour parler d'agriculture, de nourriture. Et c'est vrai que ça devient de plus en plus d'actualité, puisqu'au moment où nous enregistrons, il y a eu le dernier rapport du GIEC qui nous dit, eh bien on peut encore faire des choses, tout n'est pas perdu. Mais c'est vrai, on se rend compte que la sécheresse, le CO2, c'est grave, notamment dans les pays du Sud.
Oui, ils sont très vulnérables et c'est eux qui appuient auprès des COP, alors 21, 22, 23, là on en est à la 24e. Donc les pays les plus vulnérables, les petites îles en plein milieu du Pacifique, ont une pression énorme parce qu'elles sont vraiment en train de disparaître. Elles font face à des crises alimentaires.
Là, on a vraiment des réfugiés climatiques dans l'Océanie. Là, il y a effectivement...
Là, ce n'est plus de la prédiction, c'est de la réalité présente.
Donc là, les gens, effectivement, interviennent en disant « Il faut que nous prenions des mesures pour limiter le réchauffement climatique qui aboutit à l'élévation du niveau des océans et des mers. »
Voilà. Alors, tout problème a une solution. Et tout paraît pas si dramatique quand, d'un point de vue écologique, on se rend compte que notre amie Dame Nature a la possibilité d'absorber énormément de CO2, donc de pouvoir participer à la baisse de l'augmentation de la température de la planète. Elle absorbe et en plus, Madame Nature, elle a l'avantage de pouvoir stocker dans la Terre tout le CO2 qu'elle a absorbé. Donc on se dit, c'est génial, c'est une solution verte.
C'est d'ailleurs pour ça qu'on avait donné des autorisations de polluer en contrepartie de taxes carbone qui aboutissaient à reboiser ici ou là. Par exemple, pour compenser ses déplacements, le pape Benoît XVI, déjà lui, en son temps, avait favorisé le reboisement dans certaines forêts d'Europe centrale.
Voilà, quand il y a reboisement, ça c'est formidable. Mais des fois, le reboisement n'est pas suffisant. Et parfois, pour aller plus vite, parce que nous sommes quand même dans une société où il faut aller toujours plus vite, mieux, je ne sais pas si c'est pour le mieux, mais en tout cas, toujours plus vite et plus grand. Alors, qui dit nature dit plante, qui dit plante dit agriculture.
Voilà, le CCFD s'intéresse à cette question parce que dans les projets agricoles, c'est beaucoup plus simple de dire il faut élever des vaches pour donner du lait, on va faire une ferme de 1000 vaches. Il faut des terres agricoles, on va cultiver du soja sur des centaines d'hectares.
Donc, ceux qui sont partisans de faire baisser le CO2, de faire baisser l'augmentation de la température. Ceux qui sont partisans donc, de moyens verts, comme nous sommes tous, on est tous pour des solutions vertes, finalement, en y réfléchissant, c'est surtout le CCFD là, qui nous fait réfléchir parce qu'il prépare un rapport pour cette COP24, en nous disant, attention, ce n'est pas si simple d'utiliser des remèdes hivers.
Oui, parce que si on recourt à l'agro-industrie, c'est au détriment de terres vivrières et on a un deuxième problème qui pointe, qui était en passe de solution, puisque jusque en 2018, il y avait eu une baisse de la population qui a faim. Or, en 2018, c'est reparti à la hausse. Donc ça veut dire qu'il y a une priorité à donner aux agricultures qui produisent pour faire manger les personnes et non pas pour vendre. Donc, agriculture pour vivre ou agriculture pour vendre. Et la priorité, c'est tout de même l'agriculture pour vivre. Même si, pour vivre, il faut que les paysans produisent suffisamment pour pouvoir vendre un peu, pour pouvoir s'équiper et engager un cercle vertueux d'une agriculture plus intensive, mais qui en même temps utilise beaucoup de main-d'œuvre et permet de manger.
Voilà, donc l'agriculture a vraiment un rôle essentiel dans cette lutte contre le réchauffement climatique.
Oui.
Mais attention, pas n'importe quelle agriculture.
Voilà, alors là, effectivement, se joue un certain nombre d'enjeux parce que maintenant, dans nos régions, l'agro-industrie, maintenant, et les produits agricoles, qui jusqu'alors, il n'y avait que le blé, en fait, qui était l'objet d'échanges internationaux et ce qui circulait à côté du pétrole, il y avait un, le pétrole, deux, le blé. Mais maintenant, on fait circuler tout, on fait circuler des produits agricoles et puis, finalement, l'agro-business, c'est aussi un moyen de s'enrichir. Donc, on a des investisseurs qui se fichent pas mal de savoir ce qui est fait au bout de la chaîne, mais le projet, c'est l'agro-business.
Et là, on est très inquiet parce qu'apparemment, les États refusent pour l'instant, je cite donc le rapport du CCFD qui prépare cette COP24, les États, pour l'instant, refusent que les travaux du groupe soient menés officiellement à l'aune des critères établis par la FAO.
Oui, la FAO, c'est l'Organisation pour l'Agriculture et l'Alimentation.
Et ils sont, pour l'instant, pas favorables, bien que ces critères, c'est pour garantir la sécurité alimentaire. Mais les disponibilités physiques des aliments, leur accessibilité économique et leur bonne utilisation, ainsi que la stabilité dans le temps, sont des dimensions auxquelles les États, certes, s'attachent, mais c'est là aussi la confrontation entre partisans d'une agriculture industrielle et ceux qui veulent toujours maintenir une agriculture vivrière.
Vous écoutez Radio Grand Ciel.
Radio Grand Ciel.
Terre solidaire.
La radio qui rapproche les hommes.
Bon, plaçons-nous maintenant du point de vue de l'État. Je dois organiser une agriculture pour diminuer le réchauffement climatique. C'est plus facile de traiter avec 4 ou 5 personnes engagées dans l'agro-industrie plutôt que de créer des routes, des infrastructures qui vont permettre aux paysans d'aller au marché, d'échanger, voilà. Et donc là, effectivement, il y a des enjeux très, très importants.
Ben, les enjeux sont d'autant plus difficiles parce que apparemment, la dernière grande idée, c'est les capacités de stockage du CO2 dans le sol. Et donc, il n'y a que l'agro-industrie qui peut répondre d'une façon rapide. Rappelons bien qu'au début de l'émission, on a bien dit, ce n'est plus des prédictions, c'est une réalité. Les gens souffrent, les gens sont en train de périr. Et donc, il y a une urgence. Et face à cette urgence, c'est la capacité massive de stocker le CO2 dans le sol.
Alors, c'est là qu'interviennent aussi les autres aspects, parce que pour avoir une agriculture qui fasse manger les gens, il faut aussi que les produits soient corrects, ne soit pas bourré de pesticides. Et là, on a un autre élément, c'est que cette agriculture industrielle, elle utilise énormément d'intrants de synthèse, d'engrais, et de ce fait, elle n'est pas si propre pour la terre, mais c'est vrai que, vu d'avion et en allant vite, c'est la solution la plus rapide. Et là, le CCFD intervient pour dire: l'objectif de l'agriculture, c'est tout de même l'alimentation des personnes, c'est tout de même de faire en sorte que les pays puissent avoir accès à la sécurité alimentaire, c'est-à-dire avoir de quoi manger, mais aussi la souveraineté alimentaire, c'est-à-dire que ce qu'on leur met dans l'assiette, ce sont des produits qui viennent de chez eux, et non pas ce qui est souvent dit, eh bien si dans les grandes plaines de l'Ukraine et de la Russie, on peut faire du blé, et si dans les grandes plaines du Texas, on fait du coton, et si dans les grandes plaines d'Amérique centrale, on fait du soja, eh bien, il n'y a qu'à échanger, et puis on fait circuler ces produits. Oui, mais ça, c'est très bien, à condition d'avoir l'argent. Mais si l'objectif de l'agriculture, c'est de nourrir les populations du monde, il y a là un autre enjeu, et il est important d'entendre les associations de paysans. Et les paysans s'organisent. Le CCFD soutient d'ailleurs de ces paysans qui s'organisent pour qu'on utilise leurs semences, pour qu'on utilise des techniques, retrouver les techniques anciennes en les intensifiant, pour permettre aussi à l'agriculture à la fois de lutter contre le réchauffement climatique, mais en même temps de nourrir les populations. Alors on peut parler peut-être de projets de développement qui correspondent à ces choix.
Oui, il y en a plusieurs en Afrique, par exemple.
Dans un pays comme le Burundi, un pays qui est un des plus peuplés d'Afrique, 400 habitants au kilomètre carré, ce sont les champions du monde de la densité de population. On a les Pays-Bas, puis en Afrique, le Burundi. Mais au Burundi, avec cette densité de population aussi forte, chaque famille qui avait, du temps de l'arrière-grand-père, 4 ou 5 hectares, maintenant, elle a 250 mètres carrés. Donc, il faut impérativement que les gens s'organisent entre eux. Et alors, le CCFD, là, a soutenu des projets où, pour éviter qu'au moment de la pluie violente, la terre fiche le camp, eh bien, les populations s'entendent pour faire des rigoles. Parce que si un paysan fait une rigole qui va empêcher la terre de partir, de ruisseler et d'aller dans la rivière, si le paysan qui est à côté ne fait pas en même temps la rigole, eh bien, l'eau, elle ne va pas aller spécialement là où il y a un petit barrage qui la retient et qui empêche le ruissellement.
Donc, il y a absolument mutualiser les efforts, parce que sinon,
donc,
on y arrive.
Se coordonner, et le changement climatique a accru l'insécurité alimentaire, mais à contrario, les personnes se sont rendues compte que face à ces incidents climatiques, eh bien, on pouvait creuser ensemble les rigoles, piocher ensemble la terre. Donc, il s'agit là de se coordonner pour pouvoir cultiver, conserver les sols. Et on a maintenant des organisations burundaises qui travaillent auprès des populations rurales pour pratiquer ensemble de l'agroécologie, pour avoir une politique agricole qui permet de produire pour se nourrir.
Et aussi qu'il soit cohérent avec la communauté. Donc, il faut qu'il y ait quand même une bonne entente communautaire pour mutualiser tous les efforts et tout ça. Ça veut dire aussi être inventif. Parce que tout à l'heure, là, tu parlais donc de ces projets et tu parlais d'une forte pression sur la Terre. Bon, ce n'est pas la première fois que l'humanité fait face à une pression sur la Terre. Chaque fois, on a découvert d'autres procédés. Chaque fois, on a inventé pour répondre à...
Oui, alors c'est vrai, quand il y avait trop de pression sur la Terre et pas assez de nourriture, la régulation historique, c'était... Eh bien, il y a une famine. Et puis après la famine, les gens meurent. Donc après, on retrouve un équilibre entre la population qui est sur la terre et puis ceux qui, bon, les plus forts ont résisté, ont passé le cap de la famine. Et puis après, les choses s'améliorent. Sauf que maintenant, ça n'est plus envisageable. Donc il y a effectivement à redécouvrir l'association entre l'élevage et la culture, une action coordonnée, entre la création de greniers pour stocker lorsqu'il y a les récoltes, pour pouvoir avoir ces semences. Et là aussi, le CCFD a un rôle très important pour avoir des semences adaptées à cette agriculture burundaise avec la Copagène, qui est à la fois au Burundi, mais aussi dans un certain nombre de pays d'Afrique sahélienne.
Oui, comme créer des semences qui réclament pas trop d'eau, parce que là, pour l'instant, tout le monde, dans les COP 21-22, on parle du CO2, du CO2, du CO2. 10 ans avant, c'était l'eau, on va avoir manqué d'eau, on va manquer d'eau. Apparemment, maintenant, ça a plus l'air d'être l'angoisse de chacun. Mais quand même, l'eau reste un problème.
Parce que au moment des pluies, elles sont extrêmement violentes, donc il faudrait à la fois des ouvrages pour retenir ces pluies et empêcher ce ruissellement qui emmène la terre arable dans la rivière. Et puis, elles sont sur un espace de temps plus resserré. Donc, il faut qu'au moment de ces pluies aussi, c'est là qu'on travaille ensemble à l'agriculture. Donc, il y a, dans ce resserrement du temps agricole, de la saison agricole, il y a à adapter des techniques. Et c'est ce que soutient le CCFD avec les paysans qui sont dans ces pays pour mieux manger.
Voilà, mais on avait vu ça dans les émissions précédentes en Amérique du Sud, justement, où cette culture vivrière, cette culture qui garantit la sécurité et la souveraineté alimentaire des différentes populations, elle était accompagnée d'une recherche de méthodes ancestrales qui étaient donc pas trop gourmandes en utilisation d'eau ou d'engrais, avec des procédés mutualistes. L'intérêt que je trouvais à ces projets, c'est que c'était des projets systémiques, c'est-à-dire c'était pour une agriculture vivrière, il fallait également développer toute une batterie d'autres instruments tels que la bonne gouvernance, une cohésion de la société civile, des outils législatifs et aussi toute une recherche, même inventée, sur des méthodes ancestrales ou nouvelles, ou adapter des méthodes ancestrales à des méthodes de 2020 pour intensifier la rentabilité des cultures vivrières.
Intensifier l'agriculture vivrière, eh bien, ce sera le mot de la fin, parce qu'en fait, la finalité de l'agriculture, c'est bien que les hommes mangent. Et avec d'autres, le CCFD s'y emploie. Bonne semaine à tous, à bientôt.